I'd like to bring a special greeting today to all of those who are going to be part of this wonderful conference coming up in Paris in 2014. I'm excited about being part of the team that will be coming to minister to you, and I believe that God will stir your heart to love Jesus Christ more than you ever have before. That's what I'm believing for. The Lord's going to bless, and He's going to strengthen. He's going to set people free. I believe He's going to give many a new vision for ministry into the future, an understanding of some scriptural things that perhaps have not been as understood as they should be in our generation. I so look forward to being with you. I believe it's going to be a time of great rejoicing together. God bless you. I'll see you then.
Vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'Exode au chapitre 12 et au verset 3. Je voudrais profiter pour saluer les frères et sœurs qui nous visitent sur Internet. Que Dieu vous bénisse, que vraiment vous puissiez vous faire du bien semaine après semaine au travers des vidéos. En tout cas, nous pensons à vous à l'église Paris-Bassy. Nous prions aussi pour vous parce que nous croyons que derrière un écran, Dieu va encore parler à bon nombre de gens qui n'ont peut-être pas d'église, l'occasion peut-être de pouvoir assister à des cultes, alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Exode au chapitre 12. Je voudrais bien sûr forcément vous parler de la Pâque. Mais de la Pâque, d'une certaine manière, avoir une approche plus terre-à-terre, ou je dirais plus, j'allais pas dire plus spirituelle, quoique, oui, en tout cas spirituelle, ça c'est sûr, comme toutes les prédications où on aborde ce domaine de la Pâque. En tout cas, je ne voudrais pas rentrer trop dans l'historique ce matin, mais je voudrais vraiment vous mettre devant une certaine réalité par rapport à cette Pâque. Il est dit au verset 3 de ce chapitre 12, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, et on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je ferai pour tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Et quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen et amen. Cette phrase est formidable. Il dit, vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, nous pouvons encore parler de la Pâque, parce que ce que Dieu avait ordonné à cette époque s'accomplit aujourd'hui. La Pâque, nous la célébrons. Et elle va être célébrée encore l'année prochaine, et encore l'année prochaine, et encore l'année prochaine. Et jusqu'à perpétuité, la Pâque sera célébrée. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 7, il est dit « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Vous avez vu que j'ai pris l'Ancien Testament et je m'appuie aussi sur le Nouveau Testament. On va partir un petit peu dans cette direction-là pour vous apporter quelque chose de très, comment dirais-je, de très spirituel, de très, je dirais, de très sensible, de très personnel. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse comme cela. Il est surprenant que le jour de Noël, vous savez que Noël, le 25 décembre, c'est un jour, c'est une fête païenne, parce qu'on sait très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre, il est né au mois d'avril, environ, à peu près. Hein? On sait que Noël, ce n'est pas une fête chrétienne, le 25 décembre, je parle. C'est une fête païenne, où les hommes fêtent, je dirais, la naissance de Jésus, on fait la messe de minuit, on parle de cadeaux, on parle de sapins, on parle de Père Noël. Il y a quand même une consonance spirituelle, religieuse, au travers de Noël. Mais remarquez une chose, quand on parle de Pâques, c'est tout à fait différent. Alors que Pâques, c'est réellement une fête religieuse, c'est la fête des fêtes, c'est vraiment, elle est marquée de quelque chose de divin, de puissant, d'extraordinaire, et pourtant on ne parle pas de Jésus. Je ne parle pas pour les chrétiens, là. Je parle dans le monde. Je parle de ceux et celles qui n'ont pas de connaissance forcément des choses bibliques. Quand on parle de Noël, quand on parle de Pâques, pardon, on parle des œufs de Pâques. On parle de chocolat. On parle de tout sauf de la résurrection de Jésus. L'origine des œufs de Pâques est une antique coutume païenne. C'est la déesse de la fécondité. C'est-à-dire que le jour de Pâques, on vénère quelque part, ou le monde vénère la déesse de la fécondité. Au travers des œufs de Pâques. Alors, voyez, vous comprenez qu'aujourd'hui, on est dans un monde déchristianisé, complètement détaché de la personne de Dieu. Or, Pâques, ce n'est pas ça. Pâques, ce n'est pas les œufs de Pâques. Pâques, ce n'est pas du chocolat. Pâques, c'est quelque chose de plus sérieux, de plus puissant. Pâques, c'est quelque chose de très spirituel, quelque chose de divin. Pâques, dérivé du verbe hébreu signifiant « passer outre ». Et c'est ce qui s'est passé à l'époque, à l'Exode, où l'ange exterminateur est passé, mais sur les poteaux et sur les linteaux était marqué le sang de l'agneau, où des gens étaient vraiment acquittés. Et puis finalement, l'ange, quand il passait et qu'il voyait ce signe du sang, hop, il passait outre. Mais dans l'hébreu, il y a un terme très, très, très important. Dans l'hébreu, c'est dit « kapara », c'est-à-dire « couverture ». C'est-à-dire que le sang venait comme couvrir, mettre une protection. Quelque part, l'ange exterminateur passait, il ne voyait absolument rien, tout était limpide, il continuait son chemin jusqu'à ce qu'il trouve un homme et une femme dans le péché, et là il était détruit. C'est ce qui s'est passé à l'époque d'Exode. C'est ce qui s'est passé à l'époque des Hébreux. Là, la parole de Dieu nous montre que Pâques, c'est passer outre, c'est épargner. Et nous, quand on a reçu Christ dans notre vie, nous avons été épargnés. Épargné de la condamnation qui était sur notre vie, épargné peut-être de l'enfer, des ténèbres. En tout cas, ceux qui avaient reçu le sang étaient épargnés. Le diable passait outre cette vie. Et ça, c'est très important. Pilate déclare ceci dans Jean 8, 39. Comme c'est parmi vous une coutume que de vous relâcher quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Et personne n'a voulu relâcher le roi des Juifs. Personne n'a voulu relâcher le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tout le monde a proclamé à cri haut et fort, à gosier, crucifiez-le. On n'a pas voulu de Jésus-Christ. On n'a pas voulu de Jésus roi, seigneur, sauveur dans la vie. On a voulu le crucifier à la croix. On a préféré descendre un brigand et crucifier le Christ. Et cela me montre une chose, frères et sœurs. C'est que lui, la Pâque, il l'a prise en pleine figure, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas passer outre de sa vie. Il l'a prise, lui, la Pâque, pour que toi, par contre, tu puisses être épargné, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses être acquitté. Lui, il a pris nos péchés, nos iniquités, il est mort sur cette croix. La Pâque, il l'a carrément prise pour lui-même. afin que toi aujourd'hui, tu n'aies pas à la subir, mais que tu l'aies à la vivre. Et c'est là toute la différence. Aujourd'hui, nous vivons une Pâque. Jésus, lui, l'a prise, la Pâque. Il est mort sur cette croix. Il a été crucifié sur cette croix. Pour que, en fait, chacun d'entre nous, eh bien, aujourd'hui, puissions avoir une couverture sur notre vie. Et que si l'ange exterminateur passait pour te prendre, eh bien, il passerait tout simplement outre et continuerait son chemin. Voilà ce que c'est la Pâque. Entre le parallèle de l'Ancien et du Nouveau Testament, au verset 13, il dit que le sang vous servira de signe sur les maisons. Et vous verrez le sang et je passerai par-dessus vous. Le sang, tout un symbole. Hier, la Pâque, c'était la libération du peuple hébreu. C'est la traversée de la mer Rouge qui sépare le pays de la servitude à la terre promise. Tout un symbole pour nous aussi aujourd'hui. La Pâque, c'était le passage de l'esclavage à la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Adieu l'esclavage, vive la liberté. Dans l'Ancien Testament, la Pâque, c'était la renaissance du peuple d'Israël. Et aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, la Pâque, c'est la célébration de la mort et la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. La Pâque, c'est l'événement planétaire le plus important pour la race humaine, pour l'humanité. On peut exclure plein de choses dans la vie, mais il y a une chose qu'on n'a pas le droit d'exclure et de mettre de côté, c'est la Pâque. Parce que dans la Pâque, on a tout. Dans la Pâque, on a la mort, mais dans la Pâque, on a la résurrection. Dans la Pâque, on a le pardon de nos péchés au travers de la croix. Et dans la Pâque, on a la résurrection, quelle espérance! On a tout dans la Pâque. Tu peux tout laisser de côté, mais ne lâche pas la Pâque. Parce que la Pâque, c'est ta base, c'est ta vie. C'est ton ADN pour ta vie. C'est tout ce qu'a accompli Jésus, tout ce qu'il a souffert à la croix du calvaire. La Pâque, on n'a pas le droit de le laisser de côté. Alors vous comprenez bien les œufs en chocolat, on en est loin là. On est juste à côté de la plaque. Vous voyez ? Parce qu'il y a une autre portée spirituelle. Et Paul le déclare sans détour dans Romains 8, 34, Christ est mort. On pourrait s'arrêter là finalement. Christ est mort, c'est vrai. Beaucoup de gens s'arrêtent à Christ est mort. Beaucoup de gens se contentent de ça, mais il va plus loin puisqu'il dit Christ est mort, bien plus. Ah bon, bien plus quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait de plus ? Qu'est-ce qu'a fait Jésus de plus que les autres dieux ? Mais bien plus, il est ressuscité. Et c'est là toute la différence. Il est ressuscité, il rajoute, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? La Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Alors vous prenez les dieux de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'occultisme, de tous les ismes que vous pouvez avoir autour de vous, eh bien, aucun n'a pu déclarer que leur Dieu est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un espoir. Aujourd'hui, nous avons un accès. Aujourd'hui, nous avons une possibilité. Aujourd'hui, le voile a été déchiré. Nous avons un libre accès dans le Saint-Sanctuaire. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Nous avons un libre accès dans la puissance de Dieu. Pas qu'aujourd'hui, eh bien, c'est, comme il nous a dit, c'est une loi perpétuelle, vous conserverez le souvenir de ce jour. Il faut le conserver, il faut l'enseigner, puisqu'il dit dans ce passage, vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Je pose juste une question ce matin, vous n'y répondez pas, hein. Juste dans votre cœur. Si tu dois poser la question à ton fils, à tout petit, en lui disant, qu'est-ce que c'est la Pâque ? S'il te répond, c'est les gens en chocolat, eh bien, t'es passé à côté du message que tu aurais dû lui enseigner. Et je crois que c'est très intéressant de pouvoir peut-être rentrer à la maison à midi et de poser la question à ton fils, à ta fille. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, la Pâque ? Et s'il te parle, et s'il te répond comme ça, toi, sois pas offusqué. Remets-toi juste en question, mon frère, ma sœur. Et commence à prendre du temps avec lui après manger et lui expliquer exactement ce que c'est la Pâque. En disant, tu vois, la Pâque, c'est ça, 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 ça et ça. Et il faut que tu le gardes dans ton petit cœur. Parce que trop de chrétiens aujourd'hui ont exclu la Pâque de leur cœur. Ils se sont arrêtés à la croix. Ils ont oublié la résurrection. Ils se sont arrêtés au pardon des péchés, mais ils ne sont pas allés plus loin à la sanctification. Il y en a même qui se sont arrêtés au tombeau, vous imaginez. Et parfois, certains chrétiens vivent une vie de calvaire, subissent une marche avec Dieu, avec difficulté, avec épreuve, avec des compromis, avec parfois des péchés au plus profond de leur cœur, tout cela parce qu'ils ont oublié, ils ont mis de côté la Pâque. Oui. Et si parfois il y a des chrétiens qui subissent leurs péchés dans leur vie, c'est parce que la Pâque n'est plus intégrée dans leur cœur. C'est juste une fête qu'ils fêtent une fois par an, mais qu'ils n'ont pas intégrée tout au long de l'année, tout au long de leur vie spirituelle. Ils ont exclu à un certain moment une partie de la Pâque. Ils n'ont pas pris tout le package de la Pâque. Ce n'est pas devenu l'ADN de leur vie. En tout cas, peut-être un temps, oui, puis après, ça s'est séparé. C'est important de comprendre cela. Et quand nous vivons la Pâque pleinement, que nous la remplissons de notre vie spirituelle, alors là, à partir de là, on a envie de la transmettre aux enfants. On a envie de le communiquer aux enfants. On a envie de leur faire savoir ce que c'est, que ce ne sont pas des chocolats, mais que c'est réellement la personne de Jésus-Christ qui non pas seulement est morte, mais elle est ressuscitée des morts, elle est à la droite de Dieu, elle intercède pour nous. Alors regardons ensemble la signification à la vue des Écritures. Au verset 3, on l'a vu tout à l'heure dans l'Exode, on prendra un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Frères et sœurs, cette image nous montre que le salut est individuel pour chaque famille. Je ne pourrais pas, moi, transmettre ma foi à mes enfants. Il faut qu'ils la vivent, cette foi. Il faut qu'ils l'expérimentent, qu'ils expérimentent ce salut dans leur vie. Alors, je veux leur donner envie. Je veux essayer de leur communiquer ce que j'ai reçu. Mais après, c'est à eux à faire leur propre expérience. Vous êtes d'accord avec moi? Pour chaque famille. Tu auras un agneau pour chaque famille. Cette image se montre ce salut individuel. Chacun doit avoir un agneau. Jésus, l'agneau de Dieu. C'est pour ça que dans Jean 1, 29, il est dit, Jean-Baptiste dit en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il ôte le péché du monde. La question, c'est de savoir, quand on parle de monde, on parle de tout le monde, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, d'accord? On parle des gens du dehors, on parle des gens du dedans. Est-ce qu'il a ôté le péché de ton cœur? Est-ce qu'il a ôté le péché de ton cœur? Parce que c'est là la question, en fait. Alors vous allez me dire, oui, à la conversion. D'accord, ok. Bien sûr, tu as fait cette expérience de salut dans ta vie. Ça, c'est une chose. C'est formidable, c'est ce qu'il faut. Mais après, ta vie spirituelle, qu'est-ce que tu en as fait de ta vie? De cette marche avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu subis ta foi chrétienne? Est-ce que tu subis Christ dans ta vie? Est-ce que tu subis ta marche avec Dieu où tu es enlacé par toutes sortes de péchés, de passions, de vices? Parfois de compromis et de mensonges qui t'empêchent vraiment d'être libre, de vivre la fête, de vivre Pâques. Quelque part, peut-être le message que je suis en train d'aborder, d'apporter ce matin, tu es en train de te gêner parce que tu te retrouves finalement face à un miroir, quelque part. Parce que t'as, finalement, la Pâque aujourd'hui, tu l'as subie au lieu de la vivre. À cause de ces compromis, à cause de ta situation, à cause de ce péché. Et peut-être qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais je fais avec, parce que je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Je n'ai jamais réussi à laisser ça de côté. Alors finalement, je vais m'accommoder de ce péché. Je l'ai même affectionné, puis je lui ai donné un petit nom. Et puis voilà, je l'entretiens et je l'endors plus ou moins. Mais il est là. Et quand il est là, quand on est empreint de ce péché, de cette situation, on ne peut plus vivre la Pâque. En fait, la Pâque est en décalage avec ma vie chrétienne. À partir de là, la Pâque est là, moi je suis là. Alors que je devrais complètement, pleinement imprégner cette vie de Pâque. C'est-à-dire la mort, le pardon de mes péchés et la résurrection, l'espérance. Et parfois, certains chrétiens ont vécu et subissent cela dans leur vie chrétienne. Alors moi, je peux aller même plus loin dans ma réflexion ce matin. Est-ce que tu es certain de ton salut? Est-ce que tu es certain de la vie éternelle? Vous allez me dire, mais attends, vous êtes au culte, monsieur le pasteur. Oui, je suis au culte, je suis devant des chrétiens. Oui. Mais justement, je crois qu'il est bon parfois de se remettre en question, de savoir où j'en suis, parce que ce n'est pas le tout de dire Seigneur, Seigneur. C'est ce que dit Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, c'est tous ceux qui feront la volonté de mon Père. C'est biblique. C'est pour ça que je me mets devant une réalité ce matin. Je vous parle de la Pâque, en fait. Est-ce que tu la vis, cette Pâque? Où est-ce que tu es à côté de la Pâque? À te poser encore cette question de savoir si tu es sauvé ou pas. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore cette certitude de grâce, venez me voir après pour un entretien. On va planifier un entretien, je voudrais parler avec vous. Et ce sera vraiment pour vous aider, vous accompagner à aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette position-là. Parfois, le fait de ne pas avoir cette certitude du salut de la vie éternelle, c'est qu'il y a un problème. Il y a peut-être un facteur bloquant dans ta vie, lequel, et ce sera bien d'en discuter. Parce que la Pâque, il faut que tu la vives. Qu'elle ne soit pas à côté de ta vie. Ce sera un agneau sans défaut. C'est un mâle, âgé d'un an, nous dit ce verset 5 qu'on vient de lire tout à l'heure à l'instant. Ça me fait penser à ce parallèle de 1 Pierre au chapitre 1er, verset 18. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Sans défaut et sans tâche. C'est lui, au travers de la croix, qu'il a été notre Pâque. C'est pour ça, il est notre Pâque. Et c'est pour ça que je pose encore la question, est-ce que Jésus est ta Pâque ou la Pâque est à côté de toi? C'est capital. C'est bon de pouvoir peut-être essayer de se remettre en cause par rapport à ça. Et il dit au verset 5, « Et toute l'assemblée l'immola entre les deux soirs. » Ça, c'est l'image de Jésus crucifié à la croix. Il est mort sur cette croix. Au travers de la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et toutes choses sont passées. Mais est-ce que les choses passées, est-ce qu'elles sont revenues un jour dans ta vie? Quand tu es devenu une nouvelle créature et que tu as marché dans ta foi chrétienne, est-ce que tu t'es laissé aller dans ta marche avec Dieu en faisant qu'au fur et à mesure, tu as laissé rentrer des compromis? Tu as laissé rentrer toutes sortes de choses. Alors, bien sûr, tu as filtré parce que les gros péchés, ça ne pourrait pas être possible. Ce n'est pas concevable, un gros péché. Mais finalement, vous savez, la plupart des gens seront perdus avec les petits péchés parce que qu'on soit gros ou petit, ça reste un péché tout de même, qu'on le veuille ou pas. Et on laisse passer des choses, on laisse passer des moucherons, mais on bloque les frelons. Mais le problème, c'est que le moucheron est rentré. Et c'est ça, la situation dans laquelle on se retrouve parfois. Alors on verra de son sang et on les mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux et à la porte des maisons et on en mangera. Et ça nous fait penser à 1 Jean chapitre 1er verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Le problème c'est de marcher dans la lumière. Et vous savez, quand il y a des compromis dans notre vie, on évite la lumière. On se décale, on se détourne de la lumière. On n'est pas heureux, on n'arrive pas à s'exprimer, on vient au culte parce qu'il faut venir, on sent que c'est un besoin, on a besoin de se remplir, mais on ne peut pas chanter, on ne peut pas louer le Seigneur, on se sent comme accusé. L'accusateur des frères, il est là. Ça me fait penser à Josué, le souverain sacrificateur qui avait des vêtements sales, c'est exactement pareil. Et à un moment donné, le diable dit, tu veux ton vêtement sale? Regarde comment tu es, mais c'est juste le vêtement parfois, mais il est sale. T'as pas pris soin d'enlever ce moucheron, ce détail qui vient empoisonner ta vie, qui vient, excusez-moi l'expression, te pourrir ton existence. Qui vient gâcher la joie, enlever ta joie et tu subis. C'est incroyable, mais parfois, oui c'est vrai, en tant que chrétien on peut subir. On peut se laisser écraser parce qu'on a laissé, je dirais, rentrer des choses dans notre vie. On a filtré, mais ce que tu as rentré c'était déjà suffisant pour t'écraser, pour te faire taire. Et là, David pouvait dire c'est cette chose-là, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Et on peut être consumé en tant que chrétien. On peut de l'intérieur être consumé comme la lèpre qui est en train de ronger. Ça ne se voit pas aux yeux humains, ça ne se voit pas aux yeux des chrétiens, des frères et sœurs, de la famille, des gens qui nous entourent, de l'église, du pasteur. Mais Dieu le voit. Et la Pâque, tu l'as à côté. Tu ne la vis pas, cette Pâque. Tu es loin de la mort et de la résurrection de Jésus, de cette espérance qui est la tienne, que tu as mis de côté parce que tu as laissé des choses se filtrer, te pourrir, te détruire la vie. C'est la Pâque. C'est ça la Pâque. Le poteau et linteau, dans Hébreux chapitre 11, verset 28, il est dit, c'est par la foi qu'il a mis la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et je voudrais faire un parallèle avec Éphésiens chapitre 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Mon frère, ma sœur, tu as le droit et tu dois vivre aujourd'hui la Pâque. C'est non négociable. Aujourd'hui, il faut que tu te ressaisisses. C'est non négociable. La Bible nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix. Et je crois que tu as besoin de prendre les promesses de Dieu pour toi-même. Vous savez, je disais la dernière fois, c'était cet homme qui dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Vous savez qu'on peut croire et être incrédule en même temps. Trop fort. « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Seigneur, je crois que tu es tout-puissant, mais pour ma vie, c'est difficile de concevoir que tu es capable de faire quelque chose à nouveau. Je suis rempli de foi, d'autorité pour les autres. Je prie pour les autres et Dieu les bénit. Mais pour moi-même, j'ai des doutes, j'ai des craintes, j'ai des peurs. Seigneur, je suis allé trop loin dans la désobéissance. Je t'ai laissé trop de côté pendant tant d'années. Je doute, je ne peux pas concevoir que vraiment tu viennes agir dans ma vie. Et c'est pour ça que cet homme dit, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tu as le droit de le dire ce matin. Tu as le droit et tu dois le dire, mon frère, ma sœur. Que tu prennes position par rapport à ta situation, parce que par le sang de Christ, Satan passe outre ta vie. Autrement, Satan viendra dans ta vie te percuter, t'assommer, te détruire, t'écraser à cause du péché, parce que c'est le péché qui tue. Alors que la Pâque, elle est pour toi, elle est pour moi. La Pâque, c'est un jour de joie, de fête. C'est l'occasion de pouvoir sortir de là et de dire, waouh, moi je suis sauvé, j'ai la certitude de mon salut. Et c'est dommage que cette Pâque, tu ne la vives pas en tant que chrétien. C'est juste incroyable. Et je voudrais que tu la vives. Si dehors ce sont des œufs en chocolat, dedans c'est Christ. Et ce Christ, il faut que tu le saisisses. Ce Christ, il faut que tu le prennes pour ta vie. Cette nuit même, on mangera la chair rôtie au feu. Il nous est parlé là, finalement, de quelque chose de très important. La chair rôtie au feu, littéralement, c'est mise à la broche. En hébreu, ça veut dire tala, qui veut dire mettre en croix. C'est-à-dire que cet agneau, il était mis en croix, il était cuit en hauteur, en croix, comme ça. C'est l'image déjà là aussi de la croix du calvaire. C'est l'image du sacrifice au travers de cet agneau. C'est fort de voir qu'on voit tout le symbolisme, finalement, de la crucifixion de Jésus. Verset 8, on mangera avec des pains sans levain. Le levain, la Bible nous dit que c'est le symbole de la corruption, l'emblème des doctrines pernicieuses. C'est-à-dire que tout ça, de côté, j'accepterai pas le levain dans ma vie. J'accepterai pas les choses qui sont tout autour de la parole de Dieu, en mettant, en tolérant toutes sortes de choses malsaines. Non, c'est la Bible, rien d'autre. C'est la parole de Dieu dans mon cœur. Le levain des pharisiens, je mets de côté. Il est dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 1 Corinthiens 5, 7, il dit, purifiez-vous du levain, du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. On va y revenir tout à l'heure dans cette pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je ne voudrais pas, frères et sœurs, que Christ soit crucifié à la croix pour rien sur ta vie. Je ne voudrais pas que la Pâque soit pour les autres et pas pour toi. Je voudrais simplement que tu puisses sortir de ce lieu en saisissant cette Pâque. Et c'est là où on s'aperçoit que ce n'est pas un symbole, la Pâque. C'est une réalité. C'est quelque chose de spirituel. Je vous ai parlé dans ce texte des herbes amères. C'était des laitues sauvages qui rappellent la vie difficile en Égypte. Rappelle-toi du temps où tu as vécu des moments difficiles dans ta vie. Des moments de labeur, de trouble. Mais ce qui était incroyable, c'est que tu marchais dans ta vie, en dehors de Dieu, tu marchais la tête haute comme ça, tu étais là. Alors tu subissais certes les choses. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, tu es là avec la tête basse et tu regardes tes pieds. Tu subis ta vie. À la limite, quelque part, des fois, tu t'es demandé si ce n'était pas mieux avant. Si avant, finalement, tu n'étais pas plus heureux. Si avant, tu n'étais pas plus gai. Peut-être même quelques-uns de ta famille te l'ont dit à un moment donné, t'ont fait même cette réflexion. Tu t'es ressaisi un temps et puis après t'es retombé dans les travers. Alors que Dieu voudrait que tu vives cette Pâque. Je sais peut-être ce matin, je bouscule un petit peu la tradition de cette Pâque qui est la nôtre, mais juste pour quand même vous remettre devant la réalité des choses. Il faut quand même savoir que Pâque, c'est une souffrance d'un Jésus qui était en train d'agoniser à la croix. Il faut juste le savoir, ça. Il était en train d'agoniser. On lui avait craché au visage. On lui avait donné 40 coups moins 1. Si on avait suivi ses pas, on aurait pleuré pendant 3 heures devant cette telle boucherie. Parce qu'on en a fait vraiment un animal écrasé, bafoué, craché, rejeté, méprisé, abandonné. On l'a insulté. Enfin, c'était juste horrible. C'est ça, Pâques, quand même. Hein. C'est juste comprendre que la Pâque, ce n'est pas alléluia, alléluia au départ. Oui, après, oui. Mais au départ, il y a une remise en question. Jésus n'est pas mort pour rien. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre ça. C'est très important de pouvoir comprendre ces choses-là. Et il dit, quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. J'aime cette phrase-là. C'est-à-dire être prêt dans le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus venait aujourd'hui te reprendre, est-ce que tu serais prêt? Waouh! Tu t'es déjà posé la question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es prêt? Je crois que ça, c'est fondamental. Il est dit dans Luc 12, 40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y penserez pas. » Et quand je pense à ça, ça me fait de suite penser aux 10 vierges. La Bible nous parle de 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Elles avaient toutes de la lumière, elles avaient toutes de l'huile, voilà, c'était des chrétiennes, hein, si on donnait cette image aujourd'hui, c'était des chrétiens, c'était des personnes qui étaient engagées, voilà, mais à un moment donné, il y en a 5 qui sont restés sur la touche. Parce que, tout simplement, ils ont les mis sur la touche, la Pâque. Étant donné qu'ils avaient mis sur la touche la Pâque, eux-mêmes étaient sous la touche. Et c'est à nous remettre en question. Je crois que nous avons besoin de se remettre en question sur plein de choses. Parfois, on prie, dit « Seigneur, je me remets en question parce que je vois que tu ne réponds pas à mes prières. Je vois que tu ne réponds pas à toutes ces situations qui sont là, la maladie, peut-être un problème professionnel, financier. Tout à l'heure, une sœur venait me voir au premier culte, me dit « Frère, merci de ce que vous avez apporté parce que je voulais juste vous expliquer que j'avais une grosse situation qui ne arrivait jamais à se débloquer. » Et jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais mis la Pâque de côté, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai remis ma vie en règle avec le Seigneur, j'ai recherché la certitude du salut parce que je ne l'avais pas eu pendant plusieurs années. Et de ce jour-là, tout est rentré dans l'ordre. Parfois, les facteurs bloquants sont là. Le fait d'avoir mis la Pâque de côté comme ces 5 folles, elles étaient folles. Dieu considère que c'était de la folie. Alors, ils ne sont pas allés plus loin, ils sont restés bloqués. Et pourtant, ils avaient l'apparence de la piété, mais ils avaient perdu ce qui en faisait la force dans leur vie. Ils avaient perdu la présence de Dieu, finalement. Ils avaient l'apparence de la piété. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est la prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, parce que finalement, certains avaient cette chrétienté de carapace, mais finalement, le cœur était vide, il était complètement desséché. Alors le sang vous servira de signe sur les maisons. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et je veux croire que le Seigneur va faire ça dans votre vie. Je parle peut-être à une personne, peut-être à deux, peut-être à trois, peut-être à cinq, peut-être à plusieurs. Peu importe. Mais ce que je voudrais au travers de ce message, ce matin, au travers de la Pâque, que nous puissions tous comprendre que la Pâque, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel, chapitre 18, vous pourrez le relire tranquillement chez vous. Je vous le conseille même à le relire tranquillement chez vous. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31, regardez, écoutez bien, il est dit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi vous mourriez-vous, maison d'Israël ?» L'Éternel pose la question, mais pourquoi tu veux mourir? Pourquoi mourriez-vous? Et il encourage, il dit ceci, mais rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez peut-être péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Retrouvez cette nouveauté, retrouvez cet élan, ce nouvel amour du Seigneur. C'est ce qu'il en parle. On parle de ce renouveau, cet amour nouveau, cette fraîcheur nouvelle. Retrouvez ce peps spirituel, retrouvez cette joie de notre premier amour. Parfois, on l'a perdu à cause de ça, parce qu'on subit notre vie chrétienne. Parce qu'on est écrasé par cette vie chrétienne. À un tel point, c'est qu'on n'en parle même plus de Jésus. On ne parle même plus de Dieu parce qu'on se sent repris dans notre cœur. On n'en parle pas à nos parents, on n'en parle pas à nos enfants, on n'en parle pas aux amis, on ne parle pas aux frères, aux sœurs de notre famille. On n'en parle à personne, même pas au boulot, parce qu'on va se sentir repris. Parce que tout simplement, ta Pâque, tu l'as mis de côté. Et Dieu voudrait que tu la reprennes. Il n'est pas là pour te juger, te condamner. Il n'est pas là pour ça, moi non plus. De toute façon, je ne me permettrai pas. Mais c'est juste pour que nous puissions peut-être réaliser qu'au-delà de cette fête extraordinaire, il y a un salut individuel que tu dois t'emparer, mon frère, ma sœur. Que tu ressors de ce lieu en disant, moi, la Pâque, ouais, elle est là. Elle est dans mon cœur, elle est dans ma vie. Et je veux la vivre pleinement, personne viendra me ravir cette Pâque en moi. Jésus, il est mort, il est ressuscité, c'est mon espérance. Et c'est tout ce qui compte. Alléluia. Gloire à Dieu. On va courber nos fronts quelques instants. Je ne sais pas si Timothée est ici, puisse s'approcher. Autrement, on va prier ensemble. On va demander au Seigneur sa grâce. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, étends tes mains. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Puissions vraiment réaliser ce matin ces paroles. Réaliser que derrière cette fête religieuse, il y a un défi spirituel. Un défi spirituel pour toute l'humanité. Et cela nous concerne, cela nous interpelle, cela doit nous interpeller. Nous avons besoin de réaliser qu'au-delà de cette fête, il y a vraiment une portée personnelle avec Christ. Mon frère, ma sœur, où tu en es avec ton Père céleste? Mon frère, ma sœur, où tu en es dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as cette certitude dans ta vie? Ou est-ce que toutes sortes de compromis au fur et à mesure de ta vie, de ta marche chrétienne, sont venus polluer, sont venus écraser, sont venus détruire ta joie de vivre, t'ont même amené à être complètement paralysé, fermé, tu ne peux même plus parler, tu ne peux même plus ouvrir ta bouche, parce que tu te sens de suite condamné, accusé, devant certaines situations, et tu as vécu récemment une situation particulière, avec des gens où tu aurais pu avoir l'occasion de leur parler, mais ta conscience te reprenait. Et tu étais comme écrasé par cette conscience qui t'interpellait dans ta vie. Et tu t'es dit, mais ce n'est pas possible. Pas possible de vivre et de subir cela dans ma vie chrétienne. Quel paradoxe. Alors que le Seigneur nous dit que celui qui a le Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Que Christ est notre libération et toi tu es dans ta prison. Certes, peut-être ta prison elle est dorée, mais c'est une prison quand même. Paralysée par tout ce que tu as laissé rentrer, c'est peut-être ces petits moucherons, ces petites choses, ces détails. Le Seigneur voudrait te libérer de cela ce matin. Reprends la Pâque dans ta vie. Affronte la situation et tiens-toi ferme. Sa parole nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. J'aimerais tellement prier pour vous, je veux le faire maintenant. Mais je ne vais pas faire d'appel, je vous demanderai tous de vous lever. On va se lever à notre place, si vous le permettez. Et on va commencer à élever notre voix, demander au Seigneur d'agir au milieu de nous ce matin. D'agir dans nos vies ce matin, alléluia. D'agir dans les cœurs ce matin, parce qu'il y a des cœurs qui sont tenus, des cœurs qui sont piégés. Il y a des cœurs qui se sont laissés piéger par les compromis, par certains péchés, certaines choses qui sont là, qui ont fait qu'aujourd'hui ils se sont écrasés face aux œuvres de l'adversaire. Ils ont été dominés par la puissance de l'adversaire. Alors nous allons prier ce matin pour que Dieu agisse dans ta vie. Que Dieu étende tes mains sur ton cœur. J'aimerais que nous puissions élever nos voix ensemble. Alléluia. Commençons à élever nos voix et réclamer au Seigneur.